Bonjour, je m'appelle Juelle Boulay. Bienvenue à Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invité...
Je m'appelle Lucille Denis. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants et enseignantes déterminés et ambitieuses, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves. Je suis orthopédagogue, donc c'est une enseignante vraiment spécialisée pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Et moi, je me suis spécialisée plus dans les troubles de lecture et d'écriture. Puis, j'ai aussi ma pratique privée. Donc, j'essaie de partager ma passion au plus grand monde possible.
Bonjour Lucille, re-bienvenue.
Bonjour et merci encore de m'inviter, j'adore ça.
Oui, bien, la fois passée, on avait parlé de tellement de choses, puis là, on a vu que, on pourrait vraiment davantage parler des albums, et on voulait vraiment donner la place aux albums de jeunesse autant que possible, ou d'enfance. Donc, on voulait faire un autre épisode complètement séparé pour vraiment comme rentrer en détail.
Oui, puis je ne sais pas si on aura encore assez de temps pour exploiter tout ce qu'on veut dire.
Non, c'est probablement impossible, mais on va faire notre mieux.
J'avais envie qu'on parle un peu plus des albums sans texte, parce que ça peut être une bonne ressource pour notre milieu francophone minoritaire. Je ne sais pas pour toi, mais nous, au BC, c'est un peu plus difficile de trouver des librairies avec une section francophone assez riche. Donc, je trouvais que les albums sans texte, ça pouvait être une belle alternative.
OK, alors explique-moi qu'est-ce que c'est exactement.
OK, fait que je vais y aller de façon théorique d'abord et après ça, je vais plus y aller comme moi je le pense. Donc, il y a une autrice qui s'appelle Sophie van der Linden qui dit qu'un album sans texte, c'est pas, contrairement à son appellation, pourrait laisser entendre, un album dont on aurait supprimé le texte. En fait, c'est un livre dont le sens ou l'histoire sont uniquement portés par une suite d'images. Donc ça, c'est la définition théorique. On pense que les albums jeunesse, tu sais, c'est pour les jeunes enfants ou ceux qui ne savent pas lire, et en fait, pas du tout. Un album jeunesse sans texte, c'est vraiment pour tous âges, et moi, je l'exploite vraiment avec des élèves qui sont plus vieux comme plus jeunes, et il n'y a pas cette barrière de la langue. Tu sais, un apprenant qui a un peu plus de difficultés en français, etc., ou qui a un problème aussi au niveau du décodage, des difficultés au niveau du décodage, avec cet album sans texte-là, il a accès à la littératie quand même. Et je trouve que ça aide un peu à faire une émergence dans l'écrit et dans la littérature jeunesse. Alors, je ne sais pas si toi, tu utilises aussi des albums sans texte dans ta pratique.
Pas vraiment. C'est quelque chose dont on avait introduit comme assez récemment. Donc, c'est assez nouveau pour moi.
Cool!
Oui!
Alors, je vais mentionner deux ressources tout de suite que les gens peuvent prendre en note. Ça s'appelle J'enseigne avec la littérature jeunesse, où il y a aussi la classe de Valérie qui a fait un article dessus avec des questions, des références, un petit questionnaire, etc. Donc ça peut être deux ressources déjà pour commencer. Puis nous, après, on va en développer plus. Donc, à vos crayons et à vos bloc-notes.
Alors, je vais aussi faire des notes dans l'épisode pour que les personnes, si des personnes sont en train de conduire ou marcher, ils n'ont pas besoin d'arrêter pour noter ça.
Oui, on va rester prudent.
Oui, c'est ça.
Donc, moi, je vais partager certains de mes coups de cœur. Il y a d'autres albums donc, que je vais mentionner. Puis, il y en a aussi que j'ai exploité en classe. Donc, je vais commencer tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais comment je peux en parler? Parce que les albums sans texte sont tellement riches. Donc, j'ai décidé en fait d'y aller par point stratégique ou par thème, comment l'exploiter. Est-ce que ça te va comme ça?
C'est parfait.
OK, super. Alors, le premier point, tout simplement, c'est de développer des stratégies de lecture, que ce soit avant la lecture, pendant la lecture ou après la lecture. Et je vais donner un exemple, deux exemples en fait en particulier. Le survol et la prédiction. Quand je parle de survol, donc ça, c'est des stratégies avant la lecture, c'est de regarder l'album et de se faire déjà une petite idée par la première de couverture sur ce que je vais lire, en fait. Et c'est important, moi, dès le plus jeune âge, je parle de première de couverture, de page titre, de page de garde, quatrième de couverture, quel est l'auteur, quel est l'illustrateur. Ça, ce sont déjà un vocabulaire qui peut aider les enfants dans une espèce d'émergence vers l'écrit, de savoir où est l'auteur, où est l'illustrateur, le sens de titre, etc., qu'il y a des majuscules. Des fois, il y a des albums jeunesse où dans leur titre, il y a des indices un peu. Je pense notamment à un album de André Poulin, qui n'est pas un album sans texte, mais je trouve que c'est un exemple tellement fort. Ça s'appelle « Manchot au chaud ». Et son titre, en fait, c'est comme si c'était du tricot. Et c'est en lien avec l'histoire. Fait que déjà, des fois, on a des indices par le titre. Après, il y a un autre album, et là, c'est un album sans texte que j'adore. Et là, il va falloir que tu m'aides. Si tu pouvais le dire en anglais, ça m'aiderait.
OK, parfait.
Alors, je te laisse dire le nom de l'album.
C'est-tu Float?
Exactement.
Float de Daniel Mireille.
Merci beaucoup. Je ne sais plus le titre en français, c'est un autre titre en français, mais moi je l'ai en anglais. Je l'ai trouvé à une vente de livres d'une bibliothèque à Vancouver, donc je l'ai acheté. Et en fait, dans les pages de garde, donc, il y a comment faire en papier un bateau et un avion. Donc déjà là, ça donne des indices sur l'histoire, mais aussi ça donne une espèce de petite activité supplémentaire pour les enfants. Moi, c'est le genre de truc que j'adore.
Et pourquoi ça serait nécessaire de faire un survol comme ça? Comme qu'est-ce que ça fait pour l'enfant?
En fait, ça permet de le préparer, de le rendre un peu plus actif dans sa lecture. Il ne va pas juste regarder un album pour regarder un album. Ce sera plus des pages qui va tourner. Ça va déjà le mettre en condition de « Ah, ok, ce livre, je vais être active, je vais réfléchir dessus. » Et puis même, on va développer un peu plus comment on peut prendre cet objet-là. C'est-à-dire, déterminer l'intention de l'auteur, l'intention du livre. Pourquoi je lis ce livre-là? Si ça s'appelle « Float », comme tu dis, pourquoi? À quoi je veux m'attendre comme histoire? Est-ce que ça va être un livre informatif, un texte narratif? Donc là, déjà, ma préparation métacognitive est différente.
OK.
Puis ce que j'ai observé aussi, c'est que les enfants, ils ne font pas de lien entre le titre et l'illustration. Fait que de leur dire, regarde sur la première de couverture, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi il y a ce titre-là? C'est quoi le lien entre le titre et l'illustration? Mais ça va chercher des indices pour développer le sens de l'observation, mais ça va déjà les préparer à avoir une intention de lecture et donc à savoir quelle stratégie on met en place pendant leur lecture et surtout s'ajuster si elle est fausse. Il y a des albums magnifiques qui s'appellent Classe de lune, Classe sous-marine, puis il y en a un autre aussi avec un volcan de John Hare, ou Hare, je ne sais pas comment ça se prononce. Est-ce que toi, tu as une idée comment ça se prononce?
Ben, moi, je vois Hare comme le lapin grand, là, H-A-R-E, mais je ne suis pas certaine si c'est comme ça qu'on est censé le prononcer, mais ça va être dans les notes de l'épisode, de toute façon.
Exact. Et ça, c'est génial. Et en fait, donc moi, j'ai acheté Classe de lune, Classe sous-marine, le titre en français, mais quand j'ai vu qu'il y avait l'album sur les volcans qui est sorti, et c'était juste en anglais, je l'ai acheté. Mais dans le fond, ça ne faisait pas de complications plus que ça pour les enfants après, parce que j'ai exploité ça avec des premières années et on a travaillé le schéma narratif avec ces albums-là. Donc, c'est dire, c'était super. Moi, j'aime beaucoup ça. En plus, c'est des enfants qui partent en expédition avec leurs enseignants et enseignantes, ça dépend des albums. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant.
Alors, par schéma narratif, pardon, tu veux dire comme maintenant je manque tous mes mots de vocabulaire, je l'ai enseigné l'année passée, mais comme le début de l'histoire, c'est comme le problème qui se présente, puis la solution.
Exact. Fait que pour les plus jeunes, on va y aller avec un schéma à trois temps, début, milieu, fin. Pour les un peu plus expérimentés, on va y aller avec un cinq temps, donc introduction, situation initiale dans le fond, élément déclencheur, péripétie, dénouement et fin.
Voilà, ça c'est tous les mots que je voulais dire.
Au niveau aussi de regarder les indices, il y a un album qui s'appelle « Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs » de John Amo Lawson. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment où là, la couleur rouge, elle a un rôle particulier. Fait qu'il faut vraiment faire des liens. Et là, ça peut être pour les plus jeunes, mais ça peut être aussi pour les plus vieux. Parce que quand on commence à analyser la signification d'une couleur, etc., ça peut être très intéressant. Alors, un album que j'adore. Mais j'adore vraiment, ça s'appelle Dessine de Bill Thompson.
Thompson.
Peut-être c'est Thompson.
Oui.
Ouais. C'est pour ça que tu es là, pour m'aider.
Parfait. Bonne équipe.
Alors, ce livre-là, c'est, pour moi, c'est. Il en a fait un autre aussi, mais Dessine, ça a été comme une révélation pour moi. Dans le fond, c'est des enfants, puis là, il faut que je l'explique. C'est des enfants qui ont des craies, donc situation banale avec auxquels les élèves peuvent faire des liens avec leur propre vie, et puis commencent à dessiner, et là, leur dessin prend vie. Et là, il arrive toutes sortes d'histoires, notamment un dinosaure, etc. Ah, c'est magnifique, c'est dessiné majestueusement. En tout cas, bref, vous avez compris, je l'adore. Il y a aussi La Vague de Suzy Li, grande illustratrice, tout en finesse et petit format. Je ne sais pas s'il existe en plus grand format, mais c'est un petit format de livre. Et ça aussi, ça peut être très intéressant pour faire un lien avec l'été, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances, etc. Ce qui est important aussi de garder en tête, tout à l'heure, je le parlais, c'était la prédiction sur l'histoire. Mm-hmm. C'est-à-dire, d'après toi, avec les indices que tu as vus sur la première de couverture, tu as fait ton survol, tu as regardé un peu la quatrième de couverture, etc., de quoi va parler l'histoire ? Ça va être quoi ton intention de lecture ? Est-ce que ça va être de découvrir pourquoi il y a un dinosaure sur la couverture ? Est-ce que ça va être de savoir pourquoi tel personnage est sur la première de couverture ? Pourquoi le titre aussi ? Pourquoi ça s'appelle « Dessine » ? Pourquoi ça s'appelle « La vague » ? Donc là, ça devient une intention, fait que tout au long de sa lecture, il va voir si ça correspond à son idée de départ. Mais des fois aussi, il y a des auteurs qui sont un peu plus engagés, auteurs et autrices qui sont un peu plus engagés et qui ont une intention derrière le livre. Donc là, je vais parler de livres qui ne sont pas forcément des albums sans texte, mais ça donne une idée. Je pense à Michael Escoffier, où son style, c'est beaucoup de l'humour. Moi, j'aime beaucoup Michael Escoffier. Mes élèves savent que j'adore Michael Escoffier. Il y a aussi André Poulain, il y a Barou, où eux, ils sont un peu plus engagés au niveau de la pollution. Je parlais tout à l'heure de Manchot au chaud, de André Poulain, mmh. Où là, elle s'est basée sur un fait réel. C'était un bateau qui a eu une marée noire, tu vois, qui a pollué l'océan. Et il y a un enfant qui a voulu protéger les manchots. Et pour ça, il a mobilisé toute sa ville pour coudre, pour tricoter des petits pulls pour des manchots. Donc ça, c'est parfait si on veut faire un lien avec l'engagement citoyen, etc. Un autre album, mais là, cette fois-ci, sans texte, que j'adore aussi, ça s'appelle « Off ». C'est de Xavier Salomo. Là, ça se lit un peu comme une espèce de bande dessinée. Ça peut être pour les plus vieux. Et c'est premièrement, les dessins, les illustrations sont géniales. Et c'est vraiment beau. C'est un espèce de conte un peu écologique aussi. Il faut que vous le voyez. On pense qu'il peut y avoir une référence au Petit Chaperon Rouge, mais quand on questionne l'auteur, pas vraiment. En tout cas, c'est vraiment magnifique au niveau des illustrations.
Et pardon, je veux juste t'interrompre pour revenir à la prédiction.
Oui.
Et ce que j'ai appris dans ma division où je travaille en ce moment, c'est que pour faire une bonne prédiction, il faut comme c'est en trois parties, puis il faut avoir comme trois preuves. Ce qui, je trouve, mais pour les élèves en cinquième année, c'est comme trois preuves, mais c'est beaucoup. Mais quand tu parles de prédiction, est-ce que tu parles de, c'est comme le vécu de l'enfant, est-ce que c'est juste ce qu'on voit dans les images? De quoi parles-tu exactement?
Quand je parle de prédiction sur l'histoire, c'est-à-dire d'après toi, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire?
Alors, ça peut tout simplement être, je crois que l'enfant va aller à la plage puis va nager parce que je vois qu'il y a une plage puis un enfant près de l'eau.
Exactement.
Donc, ça ne doit pas être comme trois preuves. Puis...
Non. Non, non. On veut juste susciter l'intérêt de l'enfant et qu'il mette en place son qu'il soit un lecteur actif, dans le fond.
OK.
Mais je n'irai pas jusqu'à... J'irai pas jusqu'à la justification de trois preuves, etc. Par contre, moi, des fois, quand ce n'est pas assez développé ou que ça m'interroge, je me dis « Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Donne-moi un indice que tu as vu dans la première de couverture. » Donc ça, je vais y aller
oui,
plus comme ça.
Parce que parfois, les enfants vont dire, oh, ben, je pense que ceci va arriver. Puis c'est comme, ben, qu'est-ce qui te donne cette impression-là?
C'est ça. Okay. Puis même si des fois c'est faux, je veux dire comme, OK, on va vérifier avec l'histoire. Fait que là, je fais comme du suspense, en fait. Puis à la fin ou pendant la lecture, on peut revenir sur cette intention de lecture-là et demander l'opinion des enfants et dire, ah, OK, est-ce que tu étais correct? Est-ce que tu t'es ajusté pendant ta lecture, etc.? Fait que là, ça va travailler le métacognitif. Moi, ça, j'aime ça.
Oui, exactement. Puis là, c'est comme pour les élèves qui ont fait une bonne prédiction, même, c'est comme juste une manière de comme, hey, t'as participé, tu étais actif, puis là, hey, t'avais raison ou t'avais pas raison. Comme c'est, ça rend ça plus intéressant, je crois.
Exactement, tout à fait. Bon, album sans texte aussi, ça fait travailler le vocabulaire. Moi, il y a une chose que j'adore faire, c'est de prendre une première de couverture et demander aux enfants les mots qu'on pourrait retrouver dans l'album. Donc, ça fait comme une espèce de carte mentale ou champ sémantique en lien avec l'album. Et à un moment donné, j'avais demandé ça à un élève et il était parti sur une complètement autre direction. Donc là, je me suis dit, mais une chance que je vais demander ça, parce qu'il a permis de s'ajuster pendant sa lecture. Sinon, il serait parti, mais toute sa lecture sur une autre direction, il n'aurait pas compris le texte. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, puis d'y aller avec un vocabulaire. Si les enfants utilisent un vocabulaire très large, comme mettons bateau, ben nous, on peut dire bateau, peut-être c'est plus une barque, etc., ou un canot. Donc du coup, nous, on peut y aller beaucoup plus spécifique aussi dans le mot, dans les choix de mots. Donc ça peut aider à développer les champs lexicaux, mais aussi la précision du vocabulaire. J'ai un élève qui me dit toujours, oh, il y a une personne, ah, ben, il y a une personne. Oui, mais est-ce que c'est un pêcheur? Est-ce que c'est un grand-parent? Est-ce qu'un grand-père? Est-ce qu'un grand-mère? Est-ce que c'est un enfant? Donc, comme ça permet d'affiner aussi le vocabulaire. Ça, j'aime beaucoup faire ça.
Oui, et là, tu es en train de créer comme un lexique pour l'histoire que les élèves ont peut-être rencontré. C'est des mots de vocabulaire que les élèves ont peut-être rencontrés dans le livre. Alors là, tu es déjà en train de comme définir des mots qu'ils vont potentiellement voir.
Exactement, puis on peut les laisser afficher, puis après ça, quand on demande leur opinion, de réutiliser ce vocabulaire-là, etc. Donc, oui, tout à fait.
Cool.
Il existe un dispositif, je ne sais pas si tu connais, la lecture partagée enrichie.
Non.
C'est une des pratiques pour développer le vocabulaire. Dans le fond, tu prends une histoire ou un album, ou un livre, un album, et chaque jour, tu vas le lire. Donc, la première fois, tu vas faire la première lecture où tu vas un peu poser des questions. Le deuxième jour, tu vas le lire, mais en faisant des erreurs. Donc, les enfants te corrigent. Le troisième jour, ça va être les enfants qui lisent l'histoire. Et le quatrième et cinquième, j'ai oublié, je m'excuse. mais ça se trouve très facilement sur Internet. Et dans le fond, et aussi, tu exposes, du coup, tu sélectionnes 5 ou 7 mots et tu fais travailler ces mots-là sous forme de jeu. Tu peux associer des images avec ce mot, tu peux associer synonyme ou antonyme avec ce mot. Donc, c'est pour ça que c'est partagé, parce que tu le partages avec toute ta classe, mais enrichi parce que tu fais des activités autour de cet album-là. Donc ça, c'est vraiment super. Et ce qui permet aussi de... Mettons, tu sélectionnes un album que tu travailles en lecture partagée enrichie, puis tu peux travailler avec d'autres albums aussi, tu sais, petites lectures comme ça, lecture bonbon, etc., que tu offres aux enfants. Et ça permet de créer un réseau littéraire sur un même thème. Donc, mettons, si je prends « Off » de Xavier Salomon, qui est sur la pollution, ben après ça, je peux aller chercher un livre qui parle des témoignages d'enfants qui ont fait des actions écologiques. Je peux avoir un livre informatif que je peux laisser à disposition des élèves sur la couche d'ozone. En tout cas, je peux créer un réseau littéraire qui va enrichir le livre dont on va plus étudier.
Voilà. J'aime beaucoup ça, comme de travailler sur un thème. Puis oui. Là, ça travaille vraiment les mêmes mots de vocabulaire, puis en fait ça aide les élèves à pratiquer puis à mémoriser, comme de connaître plus de mots.
C'est ça. Je fais une aparté par rapport à l'orthographe. Par contre, si on choisit des mots de vocabulaire pour enrichir le vocabulaire, faut pas les prendre, si c'est par thème, faut pas les prendre pour travailler les mots de l'orthographe. C'est mieux de travailler les mots d'orthographe selon une régularité orthographique ou un graphème, et travailler le vocabulaire par un thème pour enrichir. Donc, c'est deux choses différentes, parce que souvent, okay, j'ai vu des pratiques où on prenait les mots de vocabulaire et on étudiait l'orthographe. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier l'orthographe du mot et de voir c'est quoi sa particularité, mais il vaut mieux rassembler, mettre ensemble pour étudier l'orthographe selon une régularité identique. Voilà.
Ok, alors là, ça serait plutôt du vocabulaire oral.
Oui, c'est ça, oui. Après, on peut faire une activité d'écriture en lien avec ça, il n'y a pas de problème, bien sûr. Ici, j'avais noté deux albums, parce qu'on parlait de thématiques, etc. Il y a le livre de l'été de Rotrot Suzanne Berner. Elle a toutes les saisons, elle a l'été, l'automne, printemps, hiver, il y a albums sans texte, donc ça peut être intéressant. Et puis la fête d'anniversaire, ça c'est une série, cet auteur-là qui s'appelle Chong King, je m'excuse si je déforme son nom de famille. Ça, pareil, elle aussi, c'est beaucoup, beaucoup d'albums jeunesse sur une thématique plus. Il y a un côté un peu plus enfantin. Je ne sais pas si les plus vieux vont s'y reconnaître, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup au niveau de la finesse des illustrations. C'est beaucoup de détails, très intéressant. Alors, autre compétence, donc on a vu les stratégies de lecture, on a vu le vocabulaire. On peut aussi développer la communication orale, et tu en avais justement parlé. C'est sûr que plus tes habiletés de langage oral sont fortes, associées à du décodage, ta compréhension écrite va être forte. Donc ça, c'est le Simple View Reading. Donc ici, de travailler le langage oral, on peut travailler le nombre de... donc le vocabulaire, le phonème, la conscience phono, etc. Et quand tout à l'heure, que je parlais de la lecture partagée enrichie, où on demandait aux élèves de redire l'histoire. Donc ça peut être aussi une activité pour développer la communication orale. Ça peut être aussi la lecture à deux. On leur a montré le livre, on les a exposés. Ben maintenant, prenez le livre et puis lisez. Moi, j'ai vu ça avec deux élèves de maternelle. C'était un autre livre de Xavier Salomon, mais celui-ci, ce n'est pas un album sans texte. Et ça s'appelle Poil, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un personnage qui a de plus en plus de poils sur son visage. Et à la fin, l'enfant peut mettre son visage dans une découpe du livre et il voit son visage avec plein de poils. Donc là, les enfants, ils avaient adoré ça. Et ils ont pris par eux-mêmes ce livre-là, ils ont commencé à faire l'histoire, etc. Donc ça, c'était génial. J'ai adoré ce moment-là. Il y a aussi un autre livre qui est vraiment cool, qui s'appelle « Le hareng rouge » d'Alicia Varela. C'est un album sans texte, mais à la fin, dans une petite enveloppe, il y a le texte qui peut aller avec l'album. Et dans le fond, c'est des dessins. Ça se passe dans un parc, dans une ville, et il y a différents personnages qui bougent. Et là, on peut suivre un personnage et raconter son histoire. On peut suivre un autre personnage et raconter son histoire. Et qu'est-ce qui lui arrive, etc. Donc, il y a un couple d'amoureux, il y a des enfants qui jouent, il y a quelqu'un qui s'assoit sur un banc, etc. Donc, c'est vraiment dynamique. On peut changer de personnage au fur et à mesure. C'est vraiment cool. On peut avoir un enfant qui s'occupe d'un personnage, un autre enfant qui s'occupe d'un autre personnage. Donc, ça peut être riche de discussions aussi. Alors, donc là, on a vu stratégie de lecture, on a vu vocabulaire, on a vu langage oral. Là, maintenant, comprendre le schéma narratif dont on parlait tout à l'heure. Et je trouve que c'est intéressant de comprendre comment un auteur construit son histoire, auteur ou autrice construit son histoire, d'avoir des modèles pour qu'après, les enfants puissent prendre ce modèle-là. Là, dans ce temps-là, moi, j'utilise beaucoup les attraits du livre. C'est Isabelle Montesino-Genet qui m'a fait découvrir ça. On va étudier un personnage, on va étudier... donc, en fait, les attraits, c'est les personnages, le rythme du récit, l'intrigue, le cadre, donc le lieu et le temps, et le style de l'auteur, puis aussi les illustrations. Et dans le style de l'auteur, moi, ce que j'aime faire, c'est comme une espèce de gros plan sur, mettons, les comparaisons. Ou introduire le vocabulaire en lien avec les cinq sens. Fait que là, on fait un travail sur ça, et après ça, je demande aux élèves de l'intégrer dans leur histoire. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on observe des livres où le vocabulaire des cinq sens est utilisé, quels mots ils ont utilisés, les noms, les verbes, etc. Et après ça, pareil aussi, j'avais fait pour le personnage, j'avais pris des photos de personnes, c'était des portraits en noir et blanc, et ils devaient décrire ce personnage-là, et quels méfaits ils avaient fait. C'était des méchants, c'était le temps d'Halloween, c'était des méchants, et quels méfaits ils avaient fait. Donc on avait développé la technique de comment décrire un personnage, et pourquoi il est comme ça. Et après ça, j'ai demandé d'écrire une histoire. sur un album jeunesse qui s'appelle Les Chroniques d'Aris Burdick de Chris Van Allsburg. Chris Van Allsburg, il est assez connu, c'est lui qui a fait Boreal Express, c'est lui qui a fait Jumanji, qui a été adapté en film après. Fait que là, les enfants sont comme « Ah oui, je connais !» Fait que là, ils aiment beaucoup ça. Et donc, moi, je fais ça avec des 5e année, 6e année. Et dans le fond, ils suivent un plan. Ils prennent une... Alors, les chroniques d'Aris Burdick, je vais raconter. La préface dit que c'est un homme, Aris Burdick, qui va chez son éditeur et dépose ses images et dit « Si tu aimes ces images-là, je reviens avec les textes qui vont avec. » Et Aris Burdick n'est jamais revenu. Ta-ta-ta, mystère. Donc, c'est des images un peu fantastiques qui font réfléchir. À un moment donné, c'est un paysage d'une forêt avec une rivière avec une harpe au milieu. Il y en a une autre où c'est une maison qui décolle carrément, où on voit la fumée et le feu en dessous de la maison. Donc, c'est un peu fantastique. Je pense que pour les plus vieux, c'est vraiment génial. Et de ça, ils doivent écrire une histoire. Pour les un peu plus jeunes, il y a aussi Le voleur de poules de Béatrice Rodriguez, qui est assez connue aussi dans les albums sans texte. Alors, on a aussi mieux saisir les interactions entre les personnages. Et pour ça, il y avait un classique, Mario Ramos. C'est vraiment un auteur phare dans la littérature jeunesse. Et Le code de la route, c'est un album sans texte, mais qui a beaucoup, beaucoup de références avec la littérature jeunesse, avec les personnages stéréotypés, les contes notamment, etc. Avec Le code de la route, super connu. Et Les trois petits cochons de Sonia Chain, C-H-I-N. Et elle, au lieu d'utiliser des personnages, ce sont des symboles. Donc ça peut être hyper intéressant aussi.
J'avoue que ça, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup en salle de classe. C'est des albums comme de fantastique. C'est pas... Bien que j'adore Harry Potter, puis beaucoup la fantasy, dernièrement, j'ai pris un petit recul de ça. Et surtout en salle de classe, c'est beaucoup de fiction ou de non-fiction que je lis avec mes élèves.
Je trouve que les chroniques d'Aris Burdick, ça vient accrocher les élèves, parce qu'en fait, vu qu'ils connaissent Jumanji la plupart, mais du coup, ça vient les accrocher et les motiver à écrire. C'est ça que j'aime, en fait.
Mais pas pendant que je l'essaie.
Donc, après ça, on a vu compréhension, les stratégies de compréhension, on a vu le vocabulaire, on a vu le langage oral, on a vu le schéma narratif. Maintenant, c'est les interactions entre les personnages. Dans le fond, il y a un auteur qui s'appelle Mario Ramos, qui est très connu dans la littérature jeunesse francophone, qui fait des livres « C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort ». Donc, c'est toujours des personnages reliés au conte, la plupart du temps. Et dans Le code de la route, c'est un album sans texte. Et aussi là, il y a beaucoup de références au conte. Et donc là, c'est de voir comment les personnages interagissent entre eux, et notamment quelle est l'image du loup par rapport aux trois petits cochons, etc. Est-ce qu'il est bien vu? Est-ce qu'il est encore menaçant comme on pense? Ou est-ce que Mario Ramos a un peu déconstruit ce mythe du loup qui fait peur? Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, vraiment. Et même pour ces albums où il y a du texte dedans, comme « C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort », il y a comme une structure répétitive avec différents personnages. En tout cas, les enfants adorent Mario Ramos. Et il y a aussi, si je continue un peu dans les contes, il y a Les trois petits cochons, mais cette fois-ci, c'est de Sonia Chain, C-H-I-N, où au lieu d'avoir vraiment le dessin de trois petits cochons, ce sont des symboles. Donc, c'est tout un apprentissage aussi. Là, il y a un petit peu d'inférence à faire, mais comment les personnages sont illustrés, c'est quoi leur relation, etc. Pourquoi des formes sont choisies comme ça. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Autre compétence qu'on peut utiliser avec les albums jeunesse, c'est les inférences. Alors, les inférences, ce sont des informations qui ne sont pas explicites. Il faut prendre ses connaissances à soi, les indices du texte, et là, on peut faire une déduction. Et notamment, comprendre le rôle des personnages dans l'histoire, ça peut faire partie du travail des inférences, notamment avec un auteur que j'adore, qui s'appelle Antoine Guillopé, qui fait des livres magnifiques, généralement c'est deux ou trois couleurs. Il a fait deux albums sans texte qui s'appellent Prédateur et Loup Noir. Et dans Loup Noir, d'ailleurs, il y a une fin surprenante. Et aussi, et j'adore quand il y a des fins surprenantes.
Moi aussi, moi aussi.
Et ici, il fait aussi des albums avec des découpes au laser. Ce sont des bijoux, vraiment, très peu de texte. Donc, on peut l'acheter aussi et le considérer comme un, pas le considérer comme un album sans texte, mais l'exploiter dans la même optique qu'un album jeunesse. Il y a Pleine Lune, il y a King Kong, il y a, en tout cas, c'est Plein Soleil, etc. C'est magnifique. Et donc, dans Prédateur et Loup Noir, dans le fond, c'est l'interaction entre trois personnages. Donc, dans Prédateur, si je me souviens bien, il y a une souris, un hibou et un chat, et lequel va se faire manger. Et c'est que en noir et blanc, il n'y a aucun texte. Donc, c'est vraiment de faire deviner le rôle de quoi et qu'est-ce qui va se passer comme histoire. Super intéressant. J'avais parlé aussi de Dessine dans Bill, avec de Bill Thompson. Et il y a aussi Le Monde Englouti de David Weisner, je pense que ça se prononce comme ça. Magnifique album. Comment dire ? On pourrait penser que c'est pour les plus jeunes, mais il y a tellement, tellement de petits, petits indices à aller chercher. Quand on parlait du sens de l'observation avec Le Monde Englouti, on est servi. C'est magnifique au niveau de l'illustration. C'est un peu dans le même style que Dessine. C'est assez précis. Il y a une poésie qui se dégage de ce livre-là. Je vous le conseille vraiment. Et il y a aussi un album jeunesse qui s'appelle Imagine. En anglais, c'est Journey de Aaron Baker, qui est pareil au niveau de les illustrations. Moi, je pense que je suis sensible aux illustrations aussi. Ça aide. Et c'est plein de détails. On suit un personnage. D'abord avec une craie rouge, et on se demande pourquoi il a une craie rouge. Et en fait, je pense que c'est une petite fille à la base qui arrive dans un monde imaginaire. En tout cas, c'est magnifique, vraiment, vraiment. Il y a un autre album comme ça qui s'appelle La Porte, et c'est vraiment un peu comme dans comment il s'appelle ce Gruffalo, non, pas Gruffalo. Attends, c'est quoi ce livre? Oh mon Dieu, c'est un classique de littérature jeunesse. C'est un garçon qui est puni dans sa chambre et qui Max et les Maxi-monstres. Tu sais, ces livres-là où tu es dans un univers et tu passes une porte ou quelque chose et tu arrives dans un autre univers-là. Moi, c'est le genre d'album qui me plaît. Donc, Imagine de Aaron Baker, c'est ça. C'est que tu es dans un univers, puis boum, tu bascules dans un autre univers. Moi, j'aime beaucoup ça.
Oui, et puis, ce que j'adore, c'est que quand il n'y a pas de mots, tout ce que les élèves sont en train de faire, c'est inférer.
Oui.
Moi, quand j'enseigne le schéma narratif, j'aime le faire avec, je ne sais pas si tu connais, c'est comme une vidéo créée par Pixar qui a fait toutes sortes de films animés. Et c'est avec des oiseaux bleus sur un fil électrique. Puis là, il y a un grand oiseau qui se présente, puis comme pas comme les autres. Puis il est bruyant, il est grand, il est comme maladroit. Puis là, il va s'asseoir sur le fil. Puis là, les élèves sont en train de dire, « Oh, ben les autres petits oiseaux ne l'aiment pas. » Mais c'est comme, « Ben pourquoi? Savez-vous qu'il n'aime pas ce grand oiseau? » Mais oui, c'est comme ça travaille juste les inférences. Puis le film avec les robots... c'est un film avec deux robots. Un s'appelle Eve, l'autre s'appelle... ça va me revenir. Mais c'est un film de Pixar aussi, je crois, où ce que c'est... Il y a très, très peu de paroles. Il y a très, très peu de mots dans le film. Puis on est juste en train de travailler les inférences.
Exact. Je fais la même chose. Moi, c'est un petit film comme ça, tu as raison, avec les carottes. C'est deux personnes qui essayent d'avoir des carottes. Fait que ça devient de plus en plus absurde comment ils peuvent avoir une carotte. Et à un moment donné, j'arrête avant la fin, puis je leur dis, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Puis il y a un autre film aussi où c'est pareil, mais c'est sur YouTube, on peut trouver. Écoute, c'est une mine d'or. C'est un explorateur qui découvre une télécommande et il se rend compte que la télécommande commande une pyramide. Ça se passe en Égypte. Et donc, il commence à s'amuser, etc. En tout cas, puis il y a un dromadaire dans l'histoire. C'est très drôle. C'est vraiment très drôle.
Le film dont je parlais, c'était Wall-E.
Ah, ok. Oui. Mais là, c'est un long film.
Oui, c'est un film de une
Ok.
heure et demie. Mais l'autre dont je parlais, c'était juste on appelle ça des shorts.
C'est ça.
Puis, oui, puis, mais ça parle parfaitement du schéma narratif, puis, mais aussi les inférences, en tout cas.
Oui, non, non, complètement. Mais de toute façon, c'est riche pour faire développer la réflexion comme ça, là. C'est super riche, oui. Donc, après les inférences, justement, c'est une excellente transition pour parler de la réflexion et de la justification. Et je pense que ça vient un peu à ce que tu disais tout à l'heure avec justifier en trois points,
Oui.
là. Il y a Julie Provencher qui a sorti un livre. C'était, je pense, c'est son doctorat. Elle a fait de ce soir justement comment développer des stratégies pour justifier ses réponses. Puis là, elle énumère une dizaine de stratégies. Et tu parlais justement de se servir de son connaissance personnelle, de son expérience personnelle. Donc, c'est une des stratégies qu'elle utilise. Et je l'ai utilisée, moi, des quatrièmes années cette année, où on a mis les stratégies, on les a développées, etc. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a un album. Si on veut faire un peu plus réfléchir, surtout pour les plus vieux, etc., il y a Jacques Goldstein qui sort des albums hyper engagés, mais super beaux, super intéressants. Notamment Le Prisonnier sans frontières. Donc là, on voit le lien, surtout avec le contexte actuel, c'est parfait. Il y a aussi l'album Gris Bleu de Bob Stack qui est sur l'intimidation. Donc ça peut faire un lien, tu sais, tu parles de la petite short movie sur les oiseaux. Après ça, tu montres Gris Bleu, tu vois, tu as un petit réseau qui est en train de se faire là. C'est vraiment riche tout ça.
Je pense, j'ai lu un livre de Jacques Goldstein. Je pense que c'est Les Étoiles que j'avais lu.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Et les illustrations sont tellement belles, tu sais.
Exact. Puis c'est pas, il y a du détail, mais c'est beaucoup moins détaillé que d'autres albums dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est très linéaire comme illustration. C'est une ligne, quoi, tu vois. Mais c'est beaucoup de sens et c'est très aéré aussi. Autant des fois il y a beaucoup comme Le Monde Englouti où c'est beaucoup de détails sur un petit espace. Jacques Goldstein, c'est plus aéré, lui.
Oui, il y a de la place pour tout.
Exact. Alors, on a vu donc les stratégies, on a vu le vocabulaire, la communication orale, le schéma narratif, les interactions entre les personnes, les personnages, les inférences, et donc ça permet de développer aussi la réflexion, la justification. Et donc, sensibiliser aux illustrations. Depuis le début, j'en parle et j'avoue, tu sais qu'avant, je faisais des décors et des costumes de théâtre. Hein, fait que je pense que j'ai développé ce sens de regarder les illustrations. Donc, j'imagine que ça vient de là.
Mais en même temps, c'est là comme la première lecture que les enfants font aussi,
C'est
c'est
vrai.
de lire les illustrations.
C'est
Comme
vrai.
moi, j'ai des amis qui ont de très jeunes enfants, puis ils vont juste prendre un livre, s'asseoir. Comme j'ai une amie qui a un enfant de 18 mois, elle va s'asseoir et prendre un livre et juste tourner les pages. Elle va
Ouais.
regarder les. C'est comme ça, c'est une lecture.
Complètement. Parce qu'elle a déjà le sens de tourner des pages dans le bon sens, parce que notre système d'écriture n'est pas le même, mettons, d'une langue asiatique ou le farsi, etc. Donc, de savoir quel est le sens de lecture, tu vois, de prendre soin d'un livre aussi, donc le respect de l'objet, tout ça, c'est, oui, ça en fait partie, c'est des prémices à la lecture, tout à fait.
Oui, puis elle tient même le livre de la bonne manière aussi, parce qu'elle a déjà appris à faire ça.
Oui, exactement. Puis ça fait travailler aussi la motricité fine, au passage.
Parfait.
Au niveau des albums, au niveau des illustrations, donc là j'en ai parlé aussi, mais je tiens à souligner le travail de Susie Lee, dont on a parlé tout à l'heure, mais le livre Ombre, petit format aussi, magnifique, un jeu d'ombre, vraiment comme son nom l'indique. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, c'est un jeu d'ombre entre un personnage, je pense que c'est des animaux si mes souvenirs sont bons, et qui a son ombre. Ça fait longtemps que je l'ai consulté, celui-ci, donc je ne m'en souviens plus dans les détails, mais j'ai été frappée en tout cas par la richesse des illustrations. Et puis, il y a Anne Brouillard aussi, La vieille dame et les souris, pareil, dans le détail, beaucoup dans le détail. Puis Antoine Guillopé, qui est pour moi un coup de cœur au niveau de. Enfin, ça découpe au laser, là, c'est magnifique parce que ça crée des superpositions entre les pages, donc ça, moi, j'aime beaucoup. Puis dernière compétence, on a parlé, ça permet aussi de développer la créativité en fait des élèves. Ils peuvent s'inspirer aussi comment l'illustrateur, comment l'auteur a fait, quel processus procéder, je vais pouvoir recopier, etc., m'en inspirer, puis développer son propre style aussi. On a un élève, nous, qui est en quatrième année et qui adore les bandes dessinées et qui s'inspire, qui est en train de trouver son style, mais qui est en train de regarder comment ils font les auteurs, les illustrateurs, et puis qu'au fur et à mesure, il est en train de développer son style. Donc ça aussi, c'est important de garder ça en tête, et une certaine flexibilité mentale aussi, en fait. Surtout quand il y a des fins surprenantes, quand on leur demande de faire des prédictions, de revenir sur, s'ajuster sur leur compréhension, etc. Ça permet d'avoir une certaine flexibilité.
Et je pense même l'apprentissage de comment titrer une œuvre après. C'est quand les élèves sont capables de faire des prédictions à partir d'un titre. Mais je trouve qu'on ne leur enseigne pas à faire l'inverse. Maintenant que tu as créé cette histoire ou même cette œuvre d'art, quel mot te vient à l'esprit pour comme titrer ceci maintenant? Ça, je n'ai jamais appris. Je n'ai jamais enseigné ça à mes élèves, mais c'est comme je remarque tellement que ça, c'est une stratégie qu'on doit enseigner explicitement.
C'est vrai, tu as raison. Oui, oui. Puis moi, ce que je trouve qui est difficile à enseigner aux élèves, c'est qu'ils choisissent un personnage. Et ce personnage-là a des caractéristiques. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur leur histoire. Et ça, je trouve que je n'ai pas encore trouvé le moyen vraiment pour leur faire comprendre que, mettons, si tu choisis un personnage qui est avare ou un personnage qui est joyeuse, etc., ou qui est curieuse, ça a un impact sur l'histoire. Donc, il faut utiliser les caractéristiques du personnage dans ton histoire. Ça, j'avoue que ce n'est pas quelque chose que j'arrive encore à faire développer chez mes élèves.
La seule chose que je peux penser à faire, ça serait de comme d'étudier un album.
C'est ça.
Où ce qu'il y a, c'est comme le trait est très comme explicite dans le livre, et de ouais. voir comment que ce comme ça serait de juste parler de ça dans un livre. Comment est-ce que cette personnalité ici affecte la manière dont l'histoire se déroule. Puis si cette personne avait comme le trait opposé, est-ce que l'histoire serait déroulée comme ça? Si la personne n'était pas curieuse, si la personne n'était pas comme, je ne sais pas, égoïste, est-ce que l'histoire serait déroulée comme telle? Comment est-ce que ça aurait changé les choix? Puis, je ne sais pas. J'ai aucune idée, je n'ai jamais même essayé.
Mais je fais du pouce à ce que tu viens de dire, parce que du coup, on pourrait prendre un album jeunesse, voir les caractéristiques d'un personnage, l'impact sur son histoire. Après ça, on prend l'album Le Hare en Rouge, où ça se passe dans une ville où il y a différents personnages. On prend un personnage, puis lui, s'il est comme ça, donc son histoire veut dire ta-ta-ta. Fait qu'on écrit l'histoire avec une aide visuelle, en pensant que, mettons, il est curieux, en pensant qu'il est introverti, en pensant qu'il tombe amoureux, etc. Et on peut s'aider de hareng rouge pour ça, tu vois. On est en train de créer une activité pédagogique, ça y est.
Cool! Mais ce qui tombe trop parfaitement, c'est que je vais parler du schéma narratif comme cette semaine.
OK.
Parce qu'on a une invitée à la fin mai qui est une autrice. Et puis, elle va venir nous parler de ses romans. Puis, elle écrit des romans où c'est comme tu choisis ton aventure. Ah. Donc, oui, comme où ce que les lecteurs, les lectrices viennent à un certain endroit, puis ils ont le choix de faire telle et telle chose. Donc, je voulais vraiment profiter de cette invitée pour parler du schéma narratif au début du mois, puis commencer à écrire des histoires en salle de classe. Puis là, oui. Donc, oui, ça, c'est juste trop parfait.
Moi, je peux expliquer comment je fais pour travailler le schéma narratif. Ça peut donner des pistes à d'autres personnes. Je mets les élèves en sous-groupe et je leur donne soit le jeu Story Cube. Je ne sais pas si tu connais, c'est sur des dés et ils ont des dessins. Il y a aussi le jeu Invente-moi une histoire. Il y a aussi le récit, Grimoire, pas Grimoire. En tout cas, c'est un autre jeu, je pense, les éditions Passe-Temps qui fait ça. En tout cas, un autre jeu pour travailler le schéma narratif. Donc là, ils construisent une histoire à base de mots ou d'images. Pour ceux qui ont un peu plus de difficulté, je leur donne le jeu avec des mots. Et ceux qui ont un peu plus de facilité, je leur donne le jeu avec des images de Story Cube, parce que des fois, c'est un peu trop abstrait, ça peut être un peu plus difficile. Mais s'il y a des élèves qui ont des difficultés de lecture, à ce moment-là, on peut leur donner l'image, etc. Fait comme ça, et je leur donne une feuille avec toutes les étapes du schéma narratif. Donc, comme ça, ça les guide. Et après ça, à l'oral aussi, on peut construire une histoire. Puis après ça, on passe à l'écrit, tout en suivant leur plan, bien sûr. Donc, il y a le plan, la rédaction, etc. Et ça, j'aime ça, de faire une espèce de préparation, de mise en préparation pour comprendre le schéma narratif.
Je fais ça aussi avec l'improvisation. On a des jeux où c'est début, milieu, fin. Alors, ça commence avec deux personnages. Ces deux personnages essaient de créer comme le scénario où ce qu'on est, qui sont les personnes. Une troisième personne s'introduit, puis introduit un problème. Alors, qu'est-ce qui va déclencher? Ensuite, la quatrième personne vient, puis donne la solution. Alors, ça aide beaucoup aussi. Et là, les élèves sont en train de bouger, puis de pratiquer vraiment l'oral. C'est quelque chose que je trouve super le fun. Puis les élèves, mais mon groupe en particulier adore l'impro. Donc, je pense que je vais intégrer ça aussi pour expliquer le schéma narratif.
Ouais. Classe de lune, classe sous-marine aussi, album sans texte, où on parle d'un problème, etc. Là, pour que les enfants comprennent, il y a un problème, il faut trouver des solutions. Là. Ces deux albums-là aussi, avec Volcano, celui de Volcano aussi, ça marche bien. Ah mon Dieu, et regarde, on pourrait en parler pendant des heures et des heures.
C'est tellement vrai. Alors, je vais te poser une question ridiculement difficile. Je ne sais pas si t'es prête pour ça. Vas-y. Mais tu as mentionné, je pense, comme 30 livres. Si quelqu'un maintenant, c'est comme, OK, je veux vraiment m'embarquer. Quels seraient peut-être les trois albums que tu suggérerais à la personne d'acheter maintenant pour pouvoir faire tout ça? Autant de ces stratégies.
OK, alors attends, parce qu'en fait, il faut que j'y aille par niveau d'âge, mettons.
OK.
Je vais aller pour peut-être un peu les plus vieux. Alors, ce que j'appelle plus vieux, c'est peut-être 11 ans et plus, mettons. Vous voyez comme ça.
OK.
Bon, les chroniques d'Aris Burdick, moi, c'est un livre que j'utilise chaque année. J'adore ce livre-là, c'est clair, je l'adore. Donc, les chroniques d'Aris Burdick, j'aime beaucoup. Après ça, attends, je regarde un peu
le monde.
Ouais, c'est ça, le monde englouti, si on veut faire un peu plus réfléchir les élèves, si on veut leur faire travailler le détail. Ça, j'aime ça. Et Off, ah oui, Off, c'est un coup de cœur que j'adore. C'est magnifique, ça. C'est vraiment magnifique. Pour les plus jeunes, Dessine, de Bill Thompson. Ça, je l'aime beaucoup. En anglais, c'est... comment tu dis créer en anglais? Chalk, je sais pas.
Chalk.
C'est ça. Ça, c'est en anglais, le titre en anglais. Float, qu'on a parlé tout à l'heure avec les pages de garde, avec le pliage du bateau et de l'avion. Mais tu as aussi les livres de Jack Goldstein, si tu veux faire réfléchir les enfants sur les questions de société. Pour les plus vieux, ça peut être intéressant, ça aussi. Et puis Antoine Guillopé, Prédateur ou Loup Noir, pour les plus jeunes. Ça aussi, ça peut être...
Et plus jeune, c'est de moins de 11 ans, disons?
Ouais, c'est ça, première année, ma maternelle, mais première, si tu commences à les faire écrire aussi, première année, deuxième année... comme je te disais, moi, la classe sous-marine, etc., à la fin de l'année, en tout cas, à peu près ce temps-ci de l'année, je leur ai fait écrire une histoire.
Et c'était en immersion française, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Mais ils étaient avancés. Hein. C'était une classe qui était bien avancée.
Alors, est-ce que quand tu parles d'avancée, parles-tu de leur cognitif ou de leur capacité pour la langue française?
Pour la langue, ils étaient la plupart, d'autres non, mais la plupart étaient capables déjà d'écrire des phrases. Tu vois, on avait travaillé avant ça la structure d'une phrase grammaticale. Et donc là, je voulais qu'ils mettent en application dans un texte. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent 4 pages, hein, on est d'accord, là, mais un petit texte.
OK. Donc, disons, première à comme la quatrième année, la troisième année pour
ces albums. Oui, troisième année. Tu vois, avec Prédateur et Loup Noir, tu peux juste faire une phrase par page. Tu sais, le chat voit la souris. Le hibou est en haut du mur. Tu sais, des petites phrases comme ça, déjà, avec Prédateur et Loup Noir. Prédateur, tu peux faire ça, de Antoine Guillopé.
OK, ben merci tellement, Lucille. Ça me donne trop d'idées. Maintenant, j'ai envie d'acheter tous ces albums.
Je sais.
Je vais donner des notes très explicites pour l'épisode, pour que les gens puissent... parce qu'il y a juste trop d'informations, tu sais. C'est trop bon. Ben, merci encore de ton temps, puis de nous expliquer toutes les stratégies, puis tous ces beaux livres. C'est toujours vraiment un plaisir de te parler.
Ça me fait plaisir, et puis ben, je te souhaite une bonne journée, et puis de bons accompagnements avec tes élèves avec les albums sans texte.
Merci.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juel Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.